Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alors, nous allons continuer notre enseignement sur l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, vous avez compris, c'est vraiment l'histoire du royaume. Et de voir un peu la gloire de Dieu qui nous est réservée. C'est pourquoi la mort physique, nous en avons une assurance éternelle contre la mort physique pour aller loin de Dieu. Nous serons nous près de Dieu. Il y a des choses extraordinaires qui nous attendent.
Et
c'est bien parce que l'Apocalypse nous retrace vraiment la fin des temps. En même temps, nous révèle beaucoup de choses sur le monde invisible. Et ceci doit nous aider à avancer avec le Seigneur. Plus vous savez ce qu'il y a dans le monde invisible, plus c'est facile pour vous d'abord de témoigner de Christ. Et puis aussi, ce qui est très bien, c'est que vous êtes capable de ne pas aller dans n'importe quelle fausse doctrine ou croire n'importe quoi. Et ceci nous permet d'être fondés et enracinés en Christ. Donc brièvement, nous avions vu au chapitre 1 comment Jean va recevoir cette révélation extraordinaire. Et je vous rappelle que l'objectif de l'Apocalypse, c'est que le propriétaire de la terre puisse récupérer la gestion de sa propriété. Il va venir d'abord restaurer le royaume qui avait été perdu par Adam. Et ensuite, il va venir instaurer son règne. Et nous verrons, Dieu va recréer la surface de la terre et nous habiterons avec lui et tout sera Dieu et Dieu sera tout en tous. Et ça, c'est extraordinaire. Dans l'éternité, nous nous verrons, frères et sœurs. Et nous serons dans la perfection, dans un environnement parfait, avec un Dieu parfait. C'est ce que Dieu est en train de se préparer au travers de l'ouverture de son royaume par la nouvelle naissance. Et c'est là où nous sommes entrés quand nous sommes nés de nouveau. Et c'est absolument fabuleux, l'Apocalypse nous en parle, c'est merveilleux. Donc Jean reçoit cette révélation et il voit Jésus glorifié. Non plus ressuscité, mais glorifié maintenant. Et là, il s'écroule dans la présence de Dieu. Ensuite, Jésus lui donne, nous le savons, un message chapitre 2 et chapitre 3 aux sept églises. Nous avons étudié tout cela. Et puis à partir du chapitre 4, il n'y a plus l'église. L'église n'est plus. Pourquoi? Parce qu'elle a été enlevée.
Donc,
nous savons que pour comprendre le chapitre 4, et toute la suite de la fin des temps, il a fallu que nous fondions deux doctrines, que nous puissions étudier deux doctrines. Trois doctrines. Donc la première, bien sûr, c'est ce qui va se passer à l'enlèvement de l'Église, nous l'avons vu. La deuxième, que nous allons nous passer devant le tribunal de Christ pendant sept ans. Nous allons être revêtus de nos récompenses, nous aurons notre corps glorifié. Et puis, bien sûr, la troisième chose que nous avons étudiée, c'est les 70 semaines d'année de Daniel. Donc, une fois que nous comprenons cela, c'est beaucoup plus facile de comprendre la suite. L'Église ne sera plus là à la tribulation. Dieu nous donne au chapitre 4 une révélation extraordinaire sur le ciel. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Le trône de Dieu, les 24 anciens, les chérubins, etc.
Nous
savons, nous avons étudié tout cela. Et à partir du chapitre 5, on voit qu'il y a un livre scellé de 7 sceaux.
Qui sont les sept
jugements que Dieu va envoyer.
Et
rappelez-vous, la tribulation n'est pas l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de Dieu. Donc nous avons étudié le côté où Dieu va frapper les hommes parce qu'il veut récupérer la gestion de sa propriété par la force.
Et chapitre 6, chapitre 7,
chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, jusqu'au chapitre
11.
Dieu va juger les hommes. Et là, il va y avoir deux camps qui vont se créer. Nous savons ceux qui vont donner leur vie à Jésus. Mais souvent, au prix de leur vie, ça va leur coûter extrêmement cher, la persécution. Les difficultés, tout ce qui va se passer contre le peuple de Dieu. Et l'autre côté, c'est le front satanique qui va travailler à essayer de tout faire. D'abord, pour créer un gouvernement mondial, nous l'avons vu dans la deuxième partie de la tribulation. Nous avons vu comment l'ennemi va faire avec les 10 rois. Et un qui va se lever, qui va donner des solutions surnaturelles sataniques, qui va essayer de montrer qu'il est tout puissant et Satan va travailler avec lui.
Donc,
évidemment, chapitre 12, nous voyons un peu les origines du diable, l'immense bataille qui va se produire aussi à ce moment-là dans le ciel, entre les puissances des ténèbres et les anges. Puis nous savons, chapitre 13, nous l'avons vu, c'est la montée de l'Antichrist, on a expliqué tout cela. Du faux prophète. Chapitre 14, nous avons encore une scène céleste à propos des 144 000, maintenant nous savons ce qu'ils sont. Ensuite nous avons vu qu'il va y avoir les, entre-temps, il y a eu les sept trompettes, excusez-moi, oui, j'aurais dû le dire, au septième
saut.
Donc en fait, ce qu'on voit, c'est quand les six premiers sauts sont ouverts, ils s'ouvrent les uns après les autres. Le septième saut, lui, va ouvrir sept trompettes. Et les six premières trompettes vont se succéder. Et à la septième trompette, ça va être encore un jugement qui va se multiplier par sept. Et c'est les sept coupes de la colère de Dieu. Dieu est au bout, la tribulation prend fin quasiment. Et nous avons vu que les jugements s'accélèrent. Plus on avance dans la tribulation, plus le jugement s'accélère. Donc nous avons découvert tout cela. Nous avons étudié la chute des empires dans la statue de Daniel, chapitre 2. Nous avons étudié Daniel 7 à propos des bêtes effrayantes qui montent, la quatrième bête, l'empire romain reconstitué. Nous avons étudié chapitre 9 de Daniel. Donc on a étudié pas mal de choses. Et les coupes de la colère de Dieu, c'est pareil, avancent 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au bout d'un moment, il y a la septième. Sixième et septième. Là, ça va être vraiment quelque chose de très particulier. Et nous en sommes donc au chapitre 15, 16 et 17. Donc, chapitre 15, nous voyons les sept coupes de la colère de Dieu. Pourquoi Dieu fait cela? C'est jusqu'au bout du bout du bout. Là, vraiment, il va frapper tellement fort que là, le diable va lâcher.
Cette
septième coupe doit aboutir à quoi? Eh bien, à la bataille d'Armageddon. Que nous allons étudier, bien sûr. Et la fin de cette septième coupe doit ramener quoi? Le deuxième retour de Jésus. Et il y a beaucoup de détails dans Matthieu 24.
Matthieu 25 aussi.
Et c'est parti de l'Apocalypse qui va nous montrer comment Jésus va revenir pour la deuxième fois. Et nous serons avec lui. Et c'est là où il détruira l'Antichrist. Et c'est là aussi où tous les vivants, tous les êtres humains vivants qui ne sont pas sauvés, Dieu va les faire mourir pour qu'à la fin de la tribulation et pour l'entrée dans le millénium, il n'y ait que des gens sauvés. C'est ce qu'on étudiera. Maintenant, il faut essayer de comprendre un certain nombre de choses. On y va étape après étape. Donc, nous avons vu que les deux dernières coupes, sixième et septième, vont être des coupes un peu particulières. C'est vraiment les dernières des dernières. Ça va être la préparation de la bataille d'Armageddon et la destruction de la Babylone spirituelle. Donc, nous avions vu chapitre 16. Nous étions en train d'étudier un petit peu ce qui se passe avec les coupes. La sixième et la septième. Et nous avons vu à partir du verset 12.
12,
la sixième coupe donc du chapitre 16. Il est dit donc, le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et l'eau en tarit pour en préparer la voie au roi qui viendrait de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, donc de Satan, de la gueule de la bête, donc l'Antichrist, et la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre afin de rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé Armageddon en hébreu. Verset 17, le septième versa sa coupe dans l'air. Il sortit du sanctuaire d'une voix forte en venant du trône en disant, c'en est fait, il y eut des éclairs, des voix de tonnerre, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait pas eu de si grand depuis que les hommes sont sur la terre. La grande ville fut divisée en trois parties. Les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle dont les grêlons pesaient environ un talent tomba sur le ciel, sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, parce que cette plaie était violente à l'extrême. On peut lire verset 12 au verset 21, s'il te plaît.
Ngo uwa gatandatu asokugwavya gwiwe mu ruzi runini Efurate, amazi yago arakama, kugira ngo inzira y'abami bava iburasirazuba yitegugwe. Kandi mbona mu kanwa kaca gisato no mu kanwa kaca gikoko no mu kanwa kawa muvugishwa ibinyoma, havamwe impuhe mu zitatu zihumanya zisa n'ibikere. Kukwizo ari impuhemu z'abadayimoni zikora ibimenyetso zija ku bami bo mu isi yose ngo zibakoranirize ku ntambara yo ku munsi uhambaye w'Imana ishobora byose. Ndaza nk'igisuma, hahigwa uba maso akazigama impuzu ziwe ngo ntagenda amenya bakabona isoni z'ubwambure bwiwe. Zibakoraniriza ahantu hitwa Harumagedoni mu gihe burayo. Uwindwi asuka ugwavya gwiwe mu kirere, ijwi rirenga riva mu rusengero kuri ya ntebe rivuga riti karabaye, habaho imiravyo n'amajwi n'imituragaro, habaho no gutigita kw'isi guhambaye, nta gutigita kunganya n'uko ubuhambazi no gukomera kwigeze kubaho uhereye aho abantu bakabereye kw'isi. Ca gisagara gihambaye kiba kigabanwamwo gatatu, ibisagara by'abanyamahanga birasenyuka, i Babuloni hahambaye hibukwa imbere y'Imana ngo hahabwe agakarabo ka vino y'uburake bwayo bw'inkazi. Ibizinga byo mu kiyaga byose birahunga kandi imisozi ntiyasubira kuboneka. Urubura ruhambaye, ibuye rimwe ryago ririvye nk'itaranto rukoragurikira ku bantu ruvuye mu ijuru ico cago c'urubura gituma abantu barogota ku mana kuko icago cago gikomeye cyane.
Donc la sixième coupe, nous le voyons, c'est la préparation de cette bataille d'Armageddon.
Wagatandatu asutse turabona ko bizanye intambara ya Armageddon.
Nous l'avions vu la dernière fois.
Twarabibonye ubuherutse.
Israël sera au bord du gouffre. Le monde sera dans un chaos gigantesque.
Et
les armées vont se réunir autour d'Armageddon. Nous avions vu la dernière fois où se situe cela, on peut peut-être remettre juste une carte. C'est une vallée un peu particulière en Israël. Et c'est là où la Bible nous montre clairement que toutes les armées du monde, sous le couvert de l'Antichrist, eh bien, viendront dans cette vallée et ils seront prêts à détruire complètement Israël. C'est ce que la Bible nous montre. Nous savons qu'Israël va au dernier moment crier à Dieu. Et un certain nombre de prophéties messianiques qui sont pour Israël, je vous rappelle que là on les trouve dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, nous avons des prophéties qui concernent uniquement Israël, je vous le rappelle. En aucun cas, je vous rappelle que les prophètes de l'Ancien Testament ne voyaient la dispensation de l'Église. Donc Israël va se convertir puissamment, nous l'avons vu, il va y avoir de grands réveils en Israël à ce moment-là. Et nous avons remarqué qu'il y a quand même des choses un peu étonnante. En revenant au verset 12, il est parlé que le sixième ange va verser sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et nous savons où se trouve le fleuve Euphrate. Nous savons que c'est au Moyen-Orient, il traverse entre autres l'Irak. Et
vous
voyez, on parle de Babylone, on parle de l'Euphrate. Et il y a vraiment des choses spirituelles dans cette région
qui,
quand on retrace la Bible, on peut se poser beaucoup de questions. Rappelez-vous que le jardin d'Éden se trouvait dans cet endroit-là. La Bible nous parle de la première fois où la Bible nous parle de l'Euphrate, c'est dans le jardin d'Éden. Et c'est étonnant, mais cet endroit-là a toujours été quelque chose de particulier au niveau de l'activité spirituelle. C'est un peu étonnant de regarder quand on voit la Bible. Si vous regardez certains textes, vous allez vraiment trouver des choses qui correspondent. Il y a quelque chose de spécial.
On
va jeter un petit coup d'œil dans Genèse 2, versets 8 à 14. On va voir Daniel aussi. Apocalypse 9. Donc il est dit, puis l'Éternel Dieu plantera un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel dit, Dieu dit, faisons pousser des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon, celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Verset 12, l'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Verset 13, le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Verset 14, le nom du troisième est Hidekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. On peut lire juste ce verset-là, s'il te plaît, en Kirundi 14.
Uravuga ngo uruzi rwa gatatu rwitwa Hidekeli ni rwo ruca hino y'igihugu cyitwa Ashuri uruzi rwa kane rwitwa Euphrate.
Nous savons que Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin pour régner sur la terre à partir de là.
Turaziko Imana yashyize Adamu na Eva mu itongo kugira ngo baganze ku isi.
Quand Adam et Ève chutent, nous savons c'est le drame de l'histoire de l'humanité.
Igihe bagwa turaziko ariyo ngorane isi yaguye.
C'est la perte du royaume.
Turaziko batakaje ubwami.
En tout cas de la gestion de la terre pour pouvoir étendre son royaume. Je vous rappelle que la terre était une extension du ciel. Ce qui fait que finalement, l'ennemi a pu implanter certainement quelque chose de spirituel là. Parce qu'il y a quand même plusieurs textes qui sont, je dirais, où on peut se poser des questions. On va regarder Daniel 10. Et Daniel 10, c'est pareil. On voit quand Daniel a été fait captif. a été déporté.
Daniel, nawe, yari atwawe nk'inyagano.
Daniel vit des expériences spirituelles très très fortes.
Yabaye mu bintu vy'impuhe mu bikomeye nawe.
Et quand on lit vraiment certains textes de Daniel,
uriko urasoma ibice bitandukanye vya Daniel,
franchement, à partir du verset 10 jusqu'au verset 21, il y a quand même des choses, même si on n'a pas trop de précision, donc on ne peut pas faire une doctrine, qui nous font poser certaines questions. Il est dit, voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains, verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse, vous voyez, le chef du royaume de Perse, ça, c'est une principauté satanique. Ce n'est pas un homme. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Rappelez-vous, il y avait les Babyloniens et les Mèdes et les Perses. Et à l'époque, c'était les Mèdes et les Perses qui avaient pris le royaume des Babyloniens. Le deuxième roi, vous vous rappelez la statue de Daniel, la tête et l'autre partie après. Babylone et après Perse, juste le chef du royaume de Perse, s'il
vous plaît, en Kirondie.
Mais on voit ici qu'il parle de quelque chose de spirituel, qu'il y a eu quelque chose d'un combat spirituel. Rappelez-vous, ça fait partie des événements prophétiques de la statue de Daniel. Les quatre parties, les quatre empires. Babylone, les Mèdes et les Perses. Les Grecs et les Romains. Donc on voit, ça nous parle d'événements ici. Vous allez voir après ce qu'il va dire à la fin du texte. Il y a vraiment quelque chose au Moyen-Orient au niveau des choses sataniques qui sont extrêmement condensées. Puisque on va même parler de Babylone la Grande. Alors on peut se dire, oui, c'est peut-être du spirituel. Oui, c'est spirituel. Mais il y a quelque chose, en tout cas au Moyen-Orient, il y a quelque chose. Pourquoi est-ce que Dieu avait choisi cet endroit-là pour placer le jardin d'Éden? Satan récupère le droit de gestion au travers d'Adam et Ève qui maintenant sont dans son royaume. Le peuple de Dieu est emmené captif où ça? À Babylone. Pourquoi pas en Égypte? Pourquoi pas je ne sais où? Là, il se passe des choses. Revenons à notre texte de Daniel. On va lire la suite et vous allez voir, il y a plus que des sous-entendus dans la parole de Dieu. Et là, dans l'Apocalypse, on va revenir encore. Donc, il dit le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, donc un ange très puissant, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Verset 14, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Verset 15, tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre, je regardais le silence, et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche, je parlais, je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, il tremblait sous la puissance de Dieu. Et comment, reviens un peu en arrière, j'ai pas tout lu, merci, et j'ai perdu toute vigueur, verset 17, comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Il était complètement sous la puissance de Dieu. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Verset 19, puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Verset 20, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Regardez bien, maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Javan, c'est les Grecs. Javan, c'est les Grecs. Et c'est exactement ce qui va se passer. Les trois premiers royaumes de la statue de
Daniel,
eh bien, on s'aperçoit qu'il y a Babylone, oui, il y a chef des Perses, et après il y a les Grecs. Et tout ça, ça se produisait dans cette région. Constamment, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et c'est bizarre parce que la Bible, vous voyez, la Genèse nous en parle, Daniel nous en parle. Et on retrouve encore ces textes dans l'Apocalypse. Apocalypse 9, 13 et 14, nous avions fait cette remarque déjà. Apocalypse 9, il est parlé encore de quelque chose. Vous vous rappelez, on avait expliqué ce texte. Le sixième ange sonna de la trompette. C'est la sixième trompette, et une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, verset 14, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. En fait, libère-les pour qu'ils agissent. Hein. Rappelez-vous, ce sont des anges. Là, ce ne sont pas des démons.
Et
là, je vous ai largement expliqué ce que ça signifiait quand il dit délire. En fait, libère-les pour la mission. Ce n'est pas qu'ils étaient en prison ou quoi que ce soit, ou liés avec des chaînes.
Il
faut faire la différence. Et en fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a eu encore une activité à propos du Moyen-Orient.
Et
c'est bizarre parce que la Bible a l'air d'insister sur cette partie-là. Parce que là, nous allons parler de Babylone la Grande. Et là encore, on se retrouve toujours. On revient à notre texte de l'Apocalypse 16. Et là, c'est très bizarre. On retrouve, et là d'un seul coup il dit verset 13, je vis sortir de la gueule du dragon, donc de Satan, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles.
Et
donc on voit vraiment des esprits sataniques travailler avec le diable, avec l'Antichrist, avec le faux prophète.
Là,
Jean voit dans l'esprit ces esprits sataniques qui travaillent avec, sous l'autorité de Satan, de l'Antichrist et du faux prophète. Alors rappelez-vous encore une chose, c'est qu'il parlait semblable à des grenouilles. Il n'est pas dit que c'était des grenouilles. Quand vous voyez une grenouille, si vous en avez peur, vous avez tort, et vous ne devez pas dire au nom de Jésus, grenouille, je te chasse.
Truc
bizarre que des chrétiens croient, quand ils voient des choses comme ça ils disent, si, si, il y a des esprits de grenouilles. Non, ils voient dans le monde spirituel et ils essayent d'expliquer du mieux possible par rapport à ce qu'ils connaissent, c'est ça que ça veut dire.
Il n'est
pas dit que c'était des grenouilles. Donc nous savons que là, il va y avoir vraiment des moments très particuliers. Et Jésus dit au verset 15, voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Étonnant, Jésus dit, je viens comme un voleur.
Eh
bien, effectivement, nous avons une parabole, enfin pas une parabole, des explications dans Matthieu 24. Et nous allons lire ce texte pour que nous puissions mieux comprendre. Je vous rappelle que quand vous lisez la chronologie de Matthieu 24 et que vous êtes suffisamment éclairé sur l'Apocalypse et la fin des temps, Matthieu 24, Jésus nous donne vraiment tout un aspect de comment ça va se passer pendant la tribulation. Et c'est très très simple de comprendre une fois qu'on connaît le schéma de la fin des temps. Donc on va lire Matthieu 24 à partir donc du verset 21. Et nous allons revoir un petit peu comment ça fonctionne. Mais ce qui va m'intéresser, c'est beaucoup plus la parabole.
Oui,
je ne sais pas si on va lire dans verset 21, ça fait un peu haut, on va lire un peu plus bas. On va lire donc à partir du verset 27. Jésus parle de son retour maintenant. Il a expliqué la tribulation dans la première partie de Matthieu 24. Nous avons souvent fait référence à ce passage. La première partie de la tribulation, la deuxième partie, les trois ans et demi, la deuxième partie, qui s'appelle la grande tribulation, et tout ce qui va se passer. Et puis après, Jésus va dire qu'il revient. Mais entre-temps, il y a tellement de gens qui vont se dire « c'est moi le Messie, c'est moi le Messie, c'est moi le Messie » en trompant des gens. Et car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'Homme. Là, on parle de sa deuxième venue. Rappelez-vous, Jésus s'adresse aux Israélites ici. Ils n'ont pas la révélation encore du temps de l'Église. Personne ne sait ça. Verset 28. Et de quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Vous vous rappelez que je vous expliquais, le cadavre, c'est Israël au bord du gouffre. Les aigles, il y a d'autres traductions que je préfère, c'est plutôt les rapaces, les oiseaux de proie. C'est vraiment l'image que Dieu donne ici de la bataille d'Armageddon, bien sûr. Là où Israël sera vu comme mort déjà, par toutes ces nations qui vont se liguer contre Israël, évidemment, il va y avoir tous ces rapaces, toutes ces nations qui, sous l'Antichrist, veulent complètement éradiquer Israël de la planète. C'est ça que ça veut dire, ce verset. Simplement. Verset 29. Aussitôt après ces jours, la détresse, le soleil s'obscurcira, la lune donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, etc. Les puissances des cieux seront ébranlées, on avait vu tout cela. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Là, c'est tous les inconvertis qui vont se lamenter. Verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Verset 32, là, on ne parle pas de l'enlèvement, je vous le rappelle. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous reconnaîtrez que l'été est proche. Ça veut dire qu'il y a des signes qui ne sont pas trompeurs. Verset 33, mais quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Verset 34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. C'est-à-dire c'est une seule génération qui va vivre tout ça. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Verset 36, pour ce qui est du jour et l'heure, personne ne sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38, car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera du même de l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40, alors de deux hommes, regardez bien ici, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 41, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 43, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, le voleur ici, vous allez voir qui c'est, parce que souvent c'est très mal interprété, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? 46, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je veux revenir simplement sur cet aspect du voleur. Parce que Jésus nous dit, dans l'Apocalypse, dans le texte de l'Apocalypse, qu'il va venir comme un voleur. Et il est dit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Alors souvent, on pense à l'enlèvement avec ce texte. Mais ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. On voit des gens qui sont laissés, des gens qui sont pris. On voit le maître de la maison et on voit le voleur. Et souvent, on interprète à l'envers la parabole. On dit le maître de la maison, c'est Jésus. Le voleur, c'est le diable. Celui qui sera enlevé, c'est celui qui sera enlevé pour l'enlèvement. Et celui qui sera laissé, c'est celui qui va rester sur la terre pour la tribulation.
Et
bien, quand on interprète ça comme ça, on a tout faux.
Parce que
cette parabole ne concerne pas l'enlèvement. Ça concerne la fin du monde, c'est-à-dire la fin des systèmes de ce monde. Le maître de la maison dans cette parabole, c'est le diable. Le voleur, entre guillemets, c'est Jésus.
Vous
voyez bien, c'est la même chose dans l'Apocalypse. Celui qui sera pris, c'est juste à la fin de la tribulation. Celui qui sera pris, c'est celui qui va mourir à la fin de la tribulation. Et qui va être jeté en enfer. La fin de Matthieu 24 et Matthieu 25 concerne pour la fin de Matthieu 24. Ça concerne le deuxième retour de Jésus. Et Matthieu 25 concerne la fin du monde jusqu'à l'entrée dans le millénium. L'entrée dans le millénium ne se fera qu'avec des gens qui sont au Seigneur. Une partie de ces gens-là seront ceux qui seront nés de nouveau, qui ne seront pas morts jusqu'à la fin de la tribulation, qui n'auront pas été tués par les acolytes de l'Antichrist, ceux qui travaillent effectivement avec lui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens souvent confondent les paraboles. Dans cette parabole, c'est Jésus qui revient et qui prend des personnes. Les personnes qui sont prises, ce sont tous les inconvertis qui vont mourir, que Dieu va faire mourir à la fin de la tribulation. Ceux qui restent dans cette parabole, ce sont ceux qui appartiennent à la maison, à la maison du Père de Jésus, qui vont rester parce qu'ils ne sont pas morts à la fin de la tribulation et qui vont entrer dans le millénium.
Il
faut bien comprendre la différence. Il y a d'autres paraboles qui effectivement disent comme si Jésus venait et qu'il prend son église. Et là, il l'enlève de la terre. Mais cette parabole concerne la fin des temps ici. Le voleur, entre guillemets, c'est Christ. Celui qui tient la maison, c'est le diable. C'est celui qui a la gestion des systèmes de ce monde. Mais il ne pourra pas empêcher Christ de venir, de prendre, c'est-à-dire de faire mourir tous ceux qui n'auront pas servi et qui auront servi le diable, qui auront pris la marque de la bête. Et donc il va les faire mourir physiquement et ils iront en enfer. Ceux qui vont rester, ce sont ceux, je vous le rappelle, qui vont entrer dans le millénium. Donc quand nous lisons ce que nous avons lu donc, du côté de, comment dire, dans l'Apocalypse, c'est exactement ce à quoi, au verset 15, chapitre 16, verset 15, c'est exactement ce que Dieu montre ici, dans sa parole. Alors, à partir du verset 17, Apocalypse, là, c'est vraiment la destruction. C'est la septième et dernière coupe. C'est le dernier jugement que Dieu va envoyer. Et Dieu va détruire la Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est un symbole. Mais comme je vous le dis, apparemment, le Moyen-Orient est sujet à beaucoup de choses spirituelles sataniques. On peut très largement penser que le quartier général de Satan est dans ce coin-là. Donc on voit le septième ange vers sa coupe. Rappelez-vous, la tribulation, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu juge la terre en vue de récupérer sa propriété. Celui qui déclenche la tribulation, c'est Dieu. C'est les dernières semaines d'année, les sept dernières années, où Dieu a dit maintenant... Au bout de ces sept ans, je vais récupérer la gestion de ma propriété. Donc là, on est, je vous le rappelle, au septième saut. On est dans la septième trompette. Et on est à la septième coupe de la colère de Dieu. Donc là, il va dire, il verse sa coupe dans l'air. Alors là, ce n'est pas l'air physique, bien sûr. Parce que vous savez, souvent le problème avec les gens, c'est quand ils lisent des choses comme cela, ils pensent que c'est l'air physique. Parce qu'il est dit, ah oui, Dieu, il dit que l'ange jette dans l'air. Rappelez-vous d'une chose, Jean voit dans le monde spirituel. Et je vous le dis et je vous le redis, d'abord ça se passe dans le monde spirituel et après ça se manifeste dans le monde physique. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Ce que vous voyez dans le monde physique, c'est le reflet des influences spirituelles. Qu'elles soient divines, ou qu'elle soit satanique. Il se passe des choses dans le monde spirituel et il y a des conséquences sur la terre, des influences sur la terre. Ici c'est exactement ce qui va se passer. Donc on va assister à la destruction des systèmes de ce monde. L'ange déverse entre guillemets dans l'air sa coupe, il averse et il y a une proclamation dans le ciel. C'en est fait, c'est fini. Et effectivement, on va commencer à comprendre qu'est-ce qui va se passer. Là, on commence à entrer au chapitre 17 et au chapitre 18. Nous allons voir que Dieu va nous révéler un certain nombre de choses sur le monde spirituel satanique, le quartier général satanique. Il y a un certain nombre de mystères qui nous sont révélés dans ces deux chapitres. Où ça nous est révélé nulle part ailleurs dans la parole de Dieu. Maintenant, je le dis et je le répète, ce n'est pas la peine d'en faire une sorte de doctrine où on va raconter ça dans tous les sens, à toutes les prédications. Il y a des choses que Dieu nous révèle et des choses que Dieu nous montre ou nous donne. C'est, je dirais, Dieu nous donne une certaine partie de la connaissance qu'il a. Parce que rappelez-vous d'une chose, nous avons autorité au premier ciel concernant les esprits sataniques. Nous pouvons délivrer quelqu'un qui est possédé. À partir du moment où cette personne va être délivrée, nous exerçons notre autorité spirituelle dans notre vie. À partir du moment où l'ennemi directement essaie de nous attaquer, de nous oppresser dans notre corps, dans nos pensées, nous pouvons délivrer des démoniaques même au plus grand degré de possession, c'est-à-dire l'esprit d'un être humain qui n'est pas converti. parti, bien sûr, qui n'est pas sauvé. Mais la Bible est claire. Tout ce qui se passe au deuxième ciel.
Et
il y a beaucoup de choses qui se passent là. Au niveau de l'activité spirituelle. Dieu nous révèle certaines choses. On a parlé de l'Euphrate et ce qui se passe par là.
Donc,
au Moyen-Orient. Il y a des choses. Mais nous n'avons pas trop de révélations là-dessus. Parce que nous n'avons pas un champ d'action direct au niveau spirituel. Il y a eu des fausses doctrines qui ont été enseignées. Où des gens ont commencé à se mettre à chercher des soi-disant révélations à propos de l'influence des esprits sataniques dans les pays. Ils ont pris certains textes de Daniel que nous avons lu tout à l'heure. Certains textes où quand Jésus chasse les démons dans les pourceaux, dans les petits ports. Ou les démons qui étaient dans ce possédé de Gadara suppliaient Jésus dans un des textes parallèles de ne les pas envoyer hors du territoire. Donc il y a des doctrines qui ont été montées, on a dit il y a des esprits territoriaux. On va commencer à demander à Dieu la révélation des noms de ces esprits-là. Parce que Jésus l'a fait. Il a demandé quel est ton nom. C'est la seule fois d'ailleurs qu'il a fait ça.
Et
certains font une doctrine constamment. Ils te disent, si on ne connaît pas le nom de l'esprit qui t'anime, alors on ne peut pas le chasser. Alors qu'on a vu ça une seule fois dans l'Écriture.
Vous
voyez, les gens commencent à en faire des doctrines. Ils abusent. Et ils amènent d'autres dans des erreurs. Certains ont commencé à essayer de soi-disant trouver des révélations. Ils priaient, ils jeûnaient pour avoir le nom de la principauté du démon qui fait telle ou telle chose dans un pays ou dans un autre. Et ils ont été dans des erreurs très graves.
Et
certaines de ces personnes, même certains de ces prédicateurs, ont très très mal tourné. Donc ne vous embarquez jamais dans ces histoires. Vous pourrez finir très mal. Et dans l'histoire de l'Église, il y a pas mal de gens qui ont commencé à se mettre dans ces trucs-là. Et Dieu ne nous dit pas de nous occuper de ces esprits-là. Donc ne cherchez pas des noms d'esprits qui influencent des villes, des nations ou quoi que ce soit. Il y a une vérité biblique qui nous est en partie révélée. Mais rappelez-vous d'une chose, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que la Bible nous révèle. Donc il faut toujours faire attention parce qu'il y a des gens vraiment qui se mettent dans des doctrines qui sont fausses à partir de textes bibliques.
Et
d'un seul coup ils en font une doctrine principale de leur vie. Jésus nous dit de prêcher son amour, de faire ses œuvres. Il
ne
nous dit pas d'aller faire des jeûnes et prières pour aller chercher des noms de démons pour les chasser. Et d'autre part, si on devait le faire, pourquoi est-ce que Jésus ne l'a pas fait lui-même d'abord? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas cherché les noms des esprits territoriaux?
Et
tout Israël, il aurait chassé tous les esprits là-bas.
Dans
tout le Moyen-Orient, sur la terre entière. Et on aurait été tranquille. Si ça avait été possible,
non,
ce n'est pas possible. Il y a une autorité qui a été donnée au travers d'Adam et Ève. Et en aucun cas, nous ne pouvons jouer à faire ce que Jésus n'a pas fait. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a plus que Jésus ici. Donc, la grande Babylone, ou Babylone la Grande, comme nous allons voir, ça va être l'objet justement à partir de cette septième coupe. Et on va avancer, chapitre 16, chapitre 17, on va en parler, chapitre 18 encore. Alors, ici, la Bible va nous dire, il y a eu des éclairs, des tonnerres, verset 18, des grands tremblements de terre, tels qu'il n'y en a pas eu de si grands depuis que les hommes sont sur la terre. En fait, Dieu va secouer toute la terre par des tremblements de terre gigantesques. Dieu va sérieusement se fâcher jusqu'au bout. La terre va être dans une destruction absolument phénoménale. Et il est dit, la grande ville fut divisée en trois parties. Les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande. Regardez bien, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Alors ici, la grande ville dont il est parlé, ben, on ne sait pas laquelle c'est. Est-ce que c'est Jérusalem divisé en trois parties? On ne sait pas.
Peut-être.
Est-ce que c'est Bagdad en Irak? On ne sait pas. On ne sait pas exactement, mais c'est clair que Dieu, en tout cas, va secouer toute la terre comme il ne l'a jamais fait.
Et
rappelez-vous toujours la différence entre ce qui se passe aujourd'hui. Quand on entend qu'il y a eu un tremblement de terre quelque part, ce n'est pas Dieu qui a fait ça.
Je vous le redis, je vous le redirai encore,
parce qu'il y a encore tellement de gens qui croient ce genre de choses. Là, c'est le mauvais gestionnaire. Par contre, pendant la tribulation, là, c'est Dieu directement qui va agir. Il frappe. Il est dit que toutes les îles s'enfuirent. Les montagnes ne furent pas retrouvées. Et il est dit que d'une grosse grêle, les grêlons tombent à environ d'un talent. 34 kilos, ça fait un talent. Imaginez-vous des morceaux de glace comme ça qui tombent. Et là, c'est clair, ça tombe sur les hommes. Les hommes blasphèment parce qu'on voit que ces inconvertis ont pris la marque de la bête, nous le savons. On est tout au bout de la tribulation, et là vraiment Dieu va aller jusqu'au bout, et l'objectif c'est de tuer tous les inconvertis, de mettre à mort tous les inconvertis. Ça, il va le faire.
Alors
au chapitre 17, c'est là où Jean va recevoir une révélation absolument phénoménale sur ce que la Bible va appeler la grande prostituée. Et en fait, Jean va voir en vision là, d'abord comment les systèmes de ce monde fonctionnaient.
Il
y avait apparemment une centralisation des systèmes de ce monde. Il va voir aussi comment ces systèmes de ce monde vont tomber, vont être jugés par Dieu. Comment le contrat de gestion de la terre va finalement prendre fin. Comment le Seigneur glorieux que nous servons va reprendre la gestion de sa propriété. Donc ici, on va voir un certain nombre de choses qui sont un peu étonnantes, parce que Jean va avoir la vision d'une femme, d'une combat que l'ange va appeler la grande prostituée. Et puis, on va découvrir tous les symboles qu'il y a derrière tout ça.
Aha turaza kubona ibimenyetso byose cyangwa ibi herekeze ikintu nk'iki
qui sont ni plus ni moins les systèmes de ce monde.
Ibyo navyo ni ibi uburyo isi twawe systèmes
z'isi. Je vous rappelle que il y a trois volets des systèmes de ce monde.
Reka ndabibutse ko isi ikozwe mu buryo butatu.
Politique, économique et sociaux.
N'isi hari vya politique akaba iby'imibano akaba n'iby'ubutunzi.
Dans cela, bien sûr, les systèmes sataniques religieux naviguent. Parce que les systèmes religieux sont des systèmes qui trempent dans la politique, dans l'économie et dans l'aspect social des personnes. Et ça, c'est ce que vous pouvez regarder au travers du monde. Étudier l'histoire des nations. Regardez régulièrement ce qui se passe dans le monde entier. C'est très facile aujourd'hui. Avec tous les moyens de communication qu'on a, c'est très facile. On a l'impression d'assister comme dans l'atmosphère, vous savez, avec le ciel, la pluie, le beau temps, les tempêtes, etc. C'est exactement ce que nous allons découvrir ici. Mais sauf que c'est du côté spirituel. Alors, il est dit, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai, regardez bien, le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux.
Avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke iteka rizocigwa maraya wagahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi.
Alors, c'était ce qu'il voit là, cette grande prostituée symbolisée par une femme.
Ngo maraya wagahebuza ikimenyetso cy'umugore.
Il est dit qu'elle est assise sur les grandes eaux.
Ngo yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi.
Et c'est très simple parce qu'au verset 15 nous avons l'explication.
Aha biroroshye ku murongo wa 15 turashobora gusobanura.
On va descendre au verset 15 directement du même chapitre. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles les prostituées étaient assises, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. Donc évidemment, quand on revient au verset 1, on voit que cette grande prostituée qui va être le symbole des systèmes sataniques de ce monde, bien sûr, nous savons que c'est ni plus ni moins quoi qu'elle domine sur les habitants de la terre. C'est-à-dire que les habitants de la terre sont asservis à ces systèmes-là. Regardons 2 Corinthiens 4:4. Et ensuite, on verra Luc chapitre 4, juste pour un petit rappel, et nous allons redécouvrir certaines choses. 2 Corinthiens 4:4, c'est l'apôtre Paul qui parle par le Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et qui nous dit quelque chose qui est très clair. On va lire à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, verset 4, pour les incrédules, donc quoi ? Le Dieu de ce siècle. Rappelez-vous que le siècle ici, c'est le mot grec aion, que je préfère traduire les systèmes de ce monde. Rappelez-vous aussi dans Luc chapitre 4, quand Jésus est tenté. Et au verset 5 jusqu'au verset 7, et là Jésus va dans son imagination être tenté. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Je vous rappelle que le diable ne l'a pas élevé physiquement, parce que alors sinon j'ai beaucoup de questions théologiques. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance, littéralement cette autorité légale et la gloire de ces royaumes qu'elle a même été donnée et je la donne à qui je veux. Rappelez-vous qu'on parle ici encore de la chute d'Adam et Ève, de du fait qu'Adam et Ève sont passés du royaume de Dieu où ils étaient avec l'autorité divine sur la terre, de la gestion de la terre. Et quand ils ont péché, ont été dans le royaume des ténèbres. Donc Satan a récupéré, en récupérant la propriété d'Adam et Ève, c'est-à-dire en récupérant l'homme, la propriété de l'homme, il récupérait le droit de gestion sur la terre.
Alors Satan, mu kwigarurira umuntu, yaraje kwigarurira ukuganza kw'ivy'umuntu yari yahawe ngo aganze.
Revenons à Apocalypse 17. Je suis obligé régulièrement de revenir, de repartir, de revenir. Je fais exprès parce que je veux que vous compreniez régulièrement ce que nous sommes en train d'étudier. Donc on reprend chapitre 17, verset 1. Et nous allons lire jusqu'au verset 6. Il y a plein de choses qui nous sont montrées ici. Donc le verset 1, nous l'avons lu, donc cette grande prostituée qui est assise sur les eaux, donc les peuples qui en fait les peuples sont asservis à ces systèmes-là. Puis un des sept, verset 2, merci. C'est avec elle que les rois, regardez bien, les rois, donc les dominateurs de la terre, les dominateurs sur les nations de la terre. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Sur les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. On va voir ce que signifie ça spirituellement. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Écarlate, c'est-à-dire de couleur rouge très foncée, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Tiens, ça vous rappelle quelque chose. 7 têtes et 10 cornes, c'est pas trop compliqué pour vous. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, donc de vêtements rouges très, très éclatants, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, des impuretés de sa prostitution. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alors on va déjà expliquer ces 6 premiers versets parce que c'est quelque chose, quand on lit une telle vision, ce n'est pas très facile. Donc voilà ce que nous allons voir. Donc ici, il y a plusieurs expressions qui sont utilisées pour cette femme.
Prostituée,
impudique, impudicité.
Alors,
on va voir l'Apocalypse 18 qui nous parle aussi justement de Babylone la Grande, des systèmes de ce monde. Et au verset 3 et au verset 9, on parle justement de cette prostituée, de cette Babylone la Grande, mais avec plus d'explications de ce que ça signifie, des symboles justement qu'on utilise derrière ces noms-là. On va lire
au
verset 2 et verset 3. Il cria d'une voix forte, disant « elle est tombée, Babylone la Grande, elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Verset 3, « parce que toutes les nations, regardez bien, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Verset 9, et tous les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand elles verront la fumée de son embrasement, c'est-à-dire quand elle va être détruite. Alors, ces versets nous parlent régulièrement d'impudicité, de prostitution, etc. Ce n'est pas au niveau de la sexualité. C'est utilisé dans un sens figuré. Ça signifie idolâtrie. Et c'est exactement ce que les systèmes de ce monde font. Dieu avait créé un royaume qui était parfait
à
travers du jardin d'Éden, le paradis sur terre
où
il n'y avait rien de touché par le péché.
Il
avait mis l'homme qui était parfait
et
il devait régner quoi? La connaissance de Dieu, l'amour, la paix, la perfection, tout était parfait. Mais nous savons, quand les systèmes de ce monde ont été donnés au diable,
eh
bien, on voit l'opposé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'égoïsme, le refus de donner la gloire au Seigneur, l'adoration des démons. On voit toutes sortes de convoitises, toutes sortes de choses qui sont anti-Dieu, ni plus ni moins. Et en fait, on voit par exemple des gens qui veulent s'enrichir, mais Ils veulent du pouvoir pourquoi? Pour eux-mêmes.
Tout
est tourné vers le culte de l'homme
ou
vers l'adoration des puissances sataniques.
On
voit l'homme qui veut vivre une vie séparée de Dieu, peut-être avec une sorte de religion, mais l'objectif c'est toujours d'être indépendant. Tu es là, tu ne veux pas l'autorité divine. Tu veux être en dehors de sa volonté. On voit des inconvertis qui sont complètement enivrés par la recherche du pouvoir. Mais étudiez l'histoire des nations, frères et sœurs. Vous verrez comment cette Babylone la Grande a influencé l'histoire des nations. On voit toute cette influence dans toutes les histoires, toute l'histoire de toutes les nations. On voit comment il y a eu de l'influence que Dieu appelle ici la prostitution et l'impudicité. Et ces gens sont comme enivrés, nous dit la parole de Dieu,
dans les
textes que nous avons lus. Ils sont comme enivrés du vin de son inconduite, verset 2, 17, verset
2.
Pourquoi? Parce que l'objectif toujours des systèmes de ce monde, c'est de défocaliser les gens sur la vraie connaissance de Dieu. Les hommes sont comme ivres. Quelqu'un qui est ivre, il va foncer dans un mur. Il va faire des choses qu'il ne ferait jamais. Il ne ferait jamais ces choses s'il était sobre. Il prend des dangers qu'il ne prendrait jamais s'il était sobre. Et la Bible nous parle que cette prostituée, c'est-à-dire les systèmes de ce monde, enivrent les gens. Et rappelez-vous, 2 Corinthiens 4, 4 nous parle que le Dieu de ce siècle a aveuglé. Et c'est clair que les inconvertis sont aveuglés. Vous voyez quelqu'un qui va aller à fond pour aller, je ne sais pas, corrompre, faire des magouilles ou essayer de prendre le pouvoir en ayant tué d'autres personnes, enfin tout un tas de trucs. Pendant toute sa vie, il s'est bagarré contre les autres pour dominer les autres. Et il va mourir. Il va aller en enfer. Vous croyez qu'il se donnerait autant d'énergie s'il n'était pas aveugle? S'il n'était pas aveugle, s'il n'était pas comme enivré par les systèmes de ce monde. Des gens parfois qui passent toute leur vie à faire quelque chose, qui donnent tout ce qu'ils ont, entre guillemets, tout ce qu'ils sont pour essayer d'atteindre des buts. Comme disait Jésus, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son arme? Et c'est exactement ce qu'on voit. Les habitants de la terre se sont enivrés avec cette défocalisation de Dieu. Des systèmes de ce monde qui essaient de dire non, 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 Dieu n'existe pas, ou Dieu est comme ça, comme ça, comme ça, et ce n'est pas la réalité. C'est ce que les systèmes de ce monde font et continuent de faire. Je vous rappelle que la Bible nous parle dans Ephésiens 2 que c'est le prince de la Satan est le prince de la puissance de l'air. Dans ce monde, il n'y a rien à manger spirituellement. Tout le monde naturel s'oppose à la connaissance de Dieu. Si tu passes pas du temps à chercher régulièrement le Seigneur, à être renouvelé dans sa présence, tu te refroidis. Et même toi, parce que tu n'es n'es plus du monde, mais que tu es dans le monde. Tu es complètement pompé. Au bout d'un moment, tu spirituellement, tu commences à t'endormir si régulièrement tu ne viens pas dans la présence de Dieu. Si tu ne te nourris pas par sa parole, si tu ne fais pas ça régulièrement jusqu'à la fin de tes jours, tant que tu es dans ce corps, ce monde t'aspire. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Versets 3 et 4. Jean est transporté en esprit dans un désert et il dit: je vois une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de son inconduite. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Donc, Jean va recevoir un certain nombre de révélations sur les systèmes de ce monde.
Alors, Jean a ronga, il sobanurwa canke ugishurwa kubijanye n'ingenisi ikozwe igenda ibayeho.
Vous rappelez les 10 cornes et les 7 têtes?
Muribuka ama.
C'est ce qu'on retrouve sur le dragon, sur le diable, quand Jean voit dans Apocalypse 12 une description du diable. Nous savons que les 10 cornes vont représenter les 10 nations qui vont être le groupe qui va former le gouvernement mondial sous le règne de l'Antichrist.
Turazi ko amahembe 10 ari bihugu 10 bizoba bikoze umugwi mukuru Satan azokorana nabo bica muri Antichrist.
Et les 7 têtes, nous savons que c'est 7 pouvoirs que Satan détient.
Hanyuma imitwe ndwi turazi yuko ari ububasha ndwi Satani afise.
Qu'au départ Dieu avait donné à Lucifer ce chérubin aux ailes déployées, parfait en beauté.
Tuzi ko ari ububasha Imana yaramuhaye mu ntango akiri umuntu yubashwe umukerubi yubashwe.
À qui Dieu avait donné ces 7 pouvoirs.
Imana yaramuhaye ubwo bubasha ndwi.
Et qu'évidemment, quand Satan s'est rebellé, quand Lucifer s'est rebellé, qu'il est devenu le diable, Satan l'ennemi de Dieu. Il les utilise contre Dieu depuis ce jour-là. Donc nous savons cela. On
ne
va pas revenir sur ces descriptions, nous l'avons déjà vu suffisamment. Mais nous savons que les systèmes de ce monde travaillent sur les principes sataniques. C'est ça que ça veut dire
ici.
Quand elle est assise sur une bête écarlate, là, dont il est parlé ici, ça veut dire qu'en fait, il y a un travail, la fondation des systèmes de ce monde, c'est justement sur l'ennemi. Alors on voit que cette femme a des habits somptueux. Cette prostituée qui ressemble, enfin qui est le symbole des systèmes de ce monde, a des habits somptueux. Et là, bien sûr, c'est les symboles de la. Ça représente la séduction des systèmes de ce monde. C'est la séduction. Comment justement les systèmes de ce monde séduisent les hommes. On essaie de montrer les choses qui sont de l'apparence, mais les motivations sont terribles. C'est exactement ce que les systèmes de ce monde font. Par exemple, on vous parle de l'argent, mais on vous en parle très mal de l'argent dans ce monde. On vous montre que l'argent, c'est pour vous, pour que en fait, vous soyez égoïste et que vous puissiez monter sur les autres. Dominer les autres. Mais on vous montre là comment ça brille l'argent. Et à ce moment-là, on te focalise sur quelque chose qui te séduit. et où tu es prêt à faire n'importe quoi pour obtenir cet argent.
Vous
voyez, c'est l'aspect de la séduction. Alors que Dieu nous donne un message, nous le savons, de la relation que nous devons avoir, nous les chrétiens, avec les finances, qui n'a rien de séducteur.
Où
il nous montre que l'argent doit être un outil principalement pour financer le royaume.
Vous
voyez, Dieu n'est pas un séducteur. Les systèmes de ce monde, parce qu'ils sont assis sur les principes sataniques, sont de la séduction. Regardez ensuite, elle tenait dans sa main une coupe d'or, la deuxième partie du verset 4, une coupe d'or remplie d'abomination et d'impureté de sa prostitution. Vous voyez, la notion de ce qui est précieux pour Dieu et ce qui est précieux pour le diable, ce sont des notions différentes.
Vous
voyez, il y a des gens, par exemple, avec qui vous ne pouvez pas partager les mêmes valeurs. Vous dites, non, on n'a pas les mêmes valeurs. Dieu et le diable ont des valeurs complètement opposées. Nous savons que l'or, et nous l'avons étudié, l'or est toujours le symbole de la gloire de Dieu. Mais pour Satan, c'est un symbole de quoi? D'idolâtrie, d'abomination, d'impureté. Pourtant, ça brille.
Mais
ça dépend dans les mains de qui ça se trouve. Et on voit vraiment combien le diable a pris les choses de Dieu et les a complètement perverties. Au verset 5, l'ange va montrer à Jean vraiment des mystères. Et il dit, sur son nom était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et dans les versets suivants, qui ne sont pas faciles à interpréter, on a vraiment l'impression que l'ange va lui révéler un certain nombre de grandes lignes du mystère des systèmes de ce monde. Ici, c'est clair, la grande Babylone la Grande, c'est la grande prostituée, c'est quoi? C'est la mère de toutes les abominations, de tout ce qui va à l'encontre de Dieu et de sa connaissance sur la terre.
Et dans la
suite de ce passage, l'ange va lui montrer les origines de cela. L'influence et la finalité justement des systèmes de ce monde. Jean, quand il voit cela, il voit d'un seul coup aussi, verset 6, que ces systèmes de ce monde, verset 6, s'opposent à qui? S'opposent au peuple de Dieu. Mais
ce
n'est pas nouveau, frères et sœurs. Du début de la Bible jusqu'au moment où Dieu viendra reprendre la gestion de la terre, les systèmes de ce monde qui sont régis selon des principes sataniques persécute et s'oppose toujours au peuple de Dieu et à la connaissance de Dieu. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez regarder toujours du début jusqu'à la fin, du début de la Bible jusque là, à l'Apocalypse, là un petit peu plus loin où on va aller, avant l'entrée dans le millénium. Vous allez découvrir tout le temps, absolument tout le temps, que les systèmes de ce monde s'opposent constamment au royaume de Dieu. C'est ce que Jean voit ici, et là ça le choque parce qu'il en a, il le sait. Il a vu les persécutions parce que lui-même, quand il est dans la vision, il était en prison à cause de sa foi. Et en fait, Jean va être étonné ici parce que d'un seul coup, au travers de cette révélation, il va réaliser ce qu'il a pu voir. Rappelez-vous, il a vu Jésus, Dieu le Fils en chair, qui vient sur la terre, qui exerce son ministère, qui fait du bien.
Et
il a vu combien Jésus a été persécuté, combien il a eu de l'opposition terrible. Il a été crucifié. Il ressuscite. Il voit après, ils sont loin, ils ont compris pourquoi ils sont là, les apôtres. Jean est apôtre. Et il vit plus de 60 ans d'histoire de l'Église. Persécution. Mort de ses amis en tant que
martyr.
Opposition des Juifs. En fait, il voit toutes sortes de choses. Mais là, on a l'impression que d'un seul coup, cette révélation lui ouvre les yeux. Et il est fortement étonné. Il fut saisi d'un grand étonnement. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, il dit, mais c'est vrai. Finalement, tout ce que j'ai pu voir dans ce naturel a une origine spirituelle. Et là, pour lui, c'est une révélation qu'il nous livre d'ailleurs. Et dans les prochaines séances, nous verrons des révélations que Dieu va nous donner sur justement les systèmes de ce monde, jusqu'à temps de voir comment Dieu, la façon dont il va détruire les systèmes de ce monde, ou même les gens qui serviront le diable et l'antichrist vont être fâchés de voir les systèmes de ce monde tomber. Et nous verrons comment Jésus va reprendre la gestion de sa propriété. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et la semaine prochaine, on continuera sur cela. Sur Babylone la Grande, la chute de Babylone la Grande, la chute des systèmes de ce monde, qui permettra à Dieu de récupérer justement la gestion et d'établir son royaume. Que Dieu vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.